que rien n'est stable. Il change parce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont déterminés à le faire changer, certains en mal pour s'en tirer un profit personnel, certains autres en bien, pour bénir, aider, secourir. Le monde change en permanence. Il y a une seule chose, disait quelqu'un, une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Il n'y a que ça qui ne change pas, ça continue le changement. Ça n'arrête jamais. Et nous, nous sommes appelés à rentrer dans la ronde, non pas de donner la main à toutes les religions et à toutes les actions en disant « on est l'Église, soyons tous saints », ça s'appelle de l'humanisme. Et ça s'appelle un manque de clarté dans la vision. Mais nous sommes appelés à rentrer dans le plan de Dieu parce que nous avons en face de nous le prince des ténèbres qui détruit avec tous ceux qui se sont portés volontaires pour l'aider, se mettant au service d'intérêts personnels ou de leur folie ou de la chair qui les détruit eux-mêmes et au travers de laquelle ils veulent détruire d'autres encore. Mais il y a besoin que de plus en plus d'hommes, de femmes se lèvent dans le royaume de Dieu pour changer le monde. Alors il ne s'agit pas de prendre une feuille ce matin, on va faire tourner une feuille et tous ceux qui veulent changer le monde vont mettre leur nom, leur prénom, etc. Ce n'est pas comme ça que les choses changent. Les choses changent lorsque ce que Dieu veut utiliser vive un chemin, parcourt un certain chemin qui les amène à un certain endroit, dans un certain état, prêt à entrer dans l'œuvre que Dieu a prévue pour eux. Que de mystère ! Ben oui, mais c'est qu'une introduction, on va y aller pas après pas, hein ? Les gens qui changent le monde, ils sont déjà à l'œuvre, mais il n'y en a pas assez qui le changent en bien, il n'y en a pas assez qui travaillent du côté de Dieu. Et ce matin, un appel retentit dans toutes les églises, ici comme au loin, pour que l'Église, personne par personne, se lève et devienne partie prenante de cette œuvre de Dieu que Dieu fait pour changer le monde. Je ne crois pas, soyons clairs, dès le début, je ne crois pas qu'un jour, sans l'œuvre, l'intervention extraordinaire de Dieu, le monde va devenir paisible. Tout d'un coup, on va restaurer la nature, les ressources naturelles, l'équilibre politique, la justice régnera partout, tout le monde mangera à sa faim. Je ne crois pas en ça, parce que dans ma compréhension des choses, ce n'est pas ce que la Bible annonce. Mais je crois que la mission de l'Église, c'est quand même de rayonner et dans son périmètre d'action, dans son cercle d'influence, d'amener de plus en plus visiblement et concrètement une manifestation du règne et du royaume de Dieu. C'est à ça que ça sert une ambassade. Si dans le sein d'une ambassade, on ne peut pas trouver la sécurité lorsqu'on est citoyen de l'ambassade en question ou de la nation représentée par l'ambassade, elle sert à quoi ? S'il n'y a pas dans l'ambassade les mêmes lois et les mêmes règles que dans le pays, alors expliquez-moi en quoi cette ambassade est vraiment une ambassade. L'Église est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Et elle doit faire régner au milieu d'elle et autour d'elle les règles, la justice, la bonté, etc., l'amour qu'on trouve dans le royaume des cieux. Je voudrais parler avec vous donc de ces gens qui changent le monde et nous allons nous appuyer sur le passage qui est donné ici. Il va falloir que tu m'aides parce que cette petite chose ne fonctionne pas. Exode chapitre 2, verset 1. Vous pouvez prendre ce passage-là parce qu'on va continuer la lecture au fil de cette méditation. On sera dans deux textes, Exode 2 et Actes 7. C'est uniquement là qu'on va lire ce matin. Moïse fait certainement partie des gens qui ont changé un gros bout du monde quand même, hein, puisque à son époque, il a influé profondément parce que Dieu était avec lui et parce qu'il avait vécu un certain cheminement dont on va parler. Il a influé profondément sur la condition de vie de plusieurs millions d'Hébreux qui étaient loin de vivre ce que Dieu voulait qu'ils vivent. Alors il a changé un bout de monde, mais il a fallu qu'ils comprennent et qu'ils vivent certaines choses avant ça. Voici d'où l'histoire part. Et c'est la même histoire pour tout le monde. Exode, chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils ou une fille. Je suis sûr que c'est comme ça que votre histoire à vous commence aussi. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Amen. Le premier point arrive, diapo suivante. Les gens qui changent le monde sont des gens qui refusent le statu quo. Moïse a grandi dans le luxe du palais de la fille de Pharaon. C'est là qu'il a grandi. L'or, il connaît. Les pierres précieuses, le fin lin, toutes les choses les plus riches, il connaît. Il a grandi dedans. Ses couches étaient brodées d'or. C'est Moïse. Voilà le contexte dans lequel il a grandi. Il ne connaît que ça. Mais tout en gardant la pleine conscience de son appartenance au peuple hébreu. Dans certains films, on voit qu'il découvre ça au bout d'un moment parce que sa mère lui a caché ça, mais il sort dans un vieux film, il sort un bout de tissu hébreu, voilà dans quoi t'étais enveloppé quand t'étais enfant, et il découvre qu'il était hébreu. Mais la vérité, c'est qu'il savait très bien qu'il était hébreu. Il a été élevé par sa mère, par une nourrice hébreuse, elle était perçue juste comme ça par la fille de Pharaon qui avait retiré Moïse de l'eau, dans son petit berceau flottant. Mais il savait très bien qu'il était hébreu. Et il avait grandi comme ça, avec une sympathie pour le peuple, mais c'était, vous savez, quand on est enfant, on se pose pas certaines questions. Bah oui, les Égyptiens sont libres, les Hébreux sont esclaves. Les Égyptiens commandent, les Hébreux obéissent. Les Égyptiens commandent des maisons, des palais, des pyramides, et les Hébreux font des maisons, des palais et des pyramides. C'est comme ça. Et puis, à un moment, il y a une sympathie qui vient, peut-être une certaine forme de compassion. Il a été témoin depuis toujours, je sais pas, depuis les étages supérieurs du palais de la fille de Pharaon. Il a toujours vu les Égyptiens fouetter les Hébreux. Et puis, sans qu'on sache exactement pourquoi, arrivé à 40 ans, nous dit Acte 7, il y a ce moment où Moïse ne tient plus, il ne peut plus juste voir. Il va vers ses frères et il prend à cœur leurs conditions de servitude. Leur souffrance, leur douleur, le non-sens de leur vie, ça commence à résonner dans son cœur. Et quelque chose se passe, on ne sait pas pourquoi, là, à 40 ans, pas avant, mais il y a une croissance, une maturité qui se fait dans son cœur. Un feu se met à brûler à l'intérieur de lui, et il ne sait pas pourquoi, mais la conclusion, il la connaît. Ça ne peut plus durer. Il faut que ça change. Les gens qui changent le monde sont des gens qui refusent le statu quo. N'avez-vous jamais vécu ce genre de situation-là? Un moment où une situation de souffrance ou d'injustice vous attrape jusqu'au fond du cœur, vous saisit, vous tord littéralement, et vous tord le ventre, vous inspire des sentiments avec un mélange de tristesse, de révolte, de compassion, de colère. C'est confus, il y a un sentiment même de nausée tellement ce que vous voyez est loin de tout ce que vous aimeriez voir. Ça vous semble être un non-sens, c'est contre nature, c'est indigne, c'est pas possible. C'est ce que vit Moïse. On vit ça lorsque on ouvre les yeux sur la réalité de ce monde avec un regard nouveau. On regarde les mêmes infos que toujours, mais on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, ça trouve un élan et on ne peut plus voir la famine, on ne peut plus voir les guerres. Quelque chose a changé dans nos cœurs et je veux y voir là déjà un souffle de Dieu qui fait des cœurs de pierre, des cœurs de chair. Et ce qui ne nous touchait pas, ce qui a toujours été, commence à nous affecter, commence à remplir notre cœur. La pauvreté, les famines, les guerres, les injustices, les manipulations. Et heureusement que même en dehors de l'Église, il y a des gens qui se laissent toucher par ça, qui sont sensibles à ces injustices, à ces anomalies-là. Mais on peut les vivre aussi, ces sentiments-là, lorsque Dieu lui-même ouvre nos yeux aux réalités spirituelles. C'est comme si la réalité qui nous entoure devenait comme un rideau et on lève le rideau. Et derrière la réalité, derrière les apparences, derrière les faits qui sont décrits juste comme des faits, il y a des actions, il y a des intentions, il y a des manipulations, des tractations dans le royaume des ténèbres. Et le prince des ténèbres, le prince de ce monde, est en train de détruire le monde. Et cette prise de conscience, on peut aussi la vivre. On discerne derrière les faits, derrière même ceux qui vont défiler par milliers dans les villes, une misère spirituelle, un besoin, une détresse, une anomalie, une souffrance. On discerne les injustices, les manipulations, l'indifférence qui est là. Et ce qui a toujours été finit par nous dégoûter, nous affecter. On n'arrive plus, ou c'est de plus en plus compliqué de cohabiter avec ces réalités-là. La violence, l'éducation dysfonctionnelle de millions d'enfants, la domination de l'argent, les dépendances qui se lient, qui se tissent autour des cœurs, parfois à quelques années, même pas 10 ans. Et on voit tout ça, et quelque chose commence à nous travailler. Eh bien, c'est lorsque ce genre de sentiment-là naît dans un cœur que quelque chose peut se produire. Et comment ça se fait que depuis des centaines d'années, il n'y en a pas un parmi tous les Hébreux qui se soit levé en disant « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, fais quelque chose, mais il faut que ça change. Comment ça se fait? Il y avait une stratégie mise en place par l'adversaire, par le peuple égyptien, qui ne voulait pas que le peuple hébreu se multiplie de trop et domine sur lui. La stratégie, c'est on va les mettre sous contrôle et on va leur donner tellement de briques à faire chaque jour, on va tellement orienter leur regard vers le sol. Faut de la paille, faut de la terre, faut de l'eau, faut presser ça, faut damer, faut mettre à sécher. On va tellement les occuper avec les choses d'ici-bas, on va tellement remplir leur journée avec des quotas qu'ils seront obligés de faire, que aucun d'entre eux n'aura le temps de lever les yeux en disant « Mais au fait, on est un peuple, en fait, on a une dignité, au fait, on pourrait ne pas être esclave aussi, au fait. » Et c'est comme ça que Pharaon va agir, pour que personne ne lève la tête et ne se mette à considérer des réalités plus grandes. Toi, t'es né pour faire des briques, mon fils. Ton grand-père était faiseur de briques. Je suis faiseur de briques. Tu seras faiseur de briques. Mais attention, des belles briques. C'est tout, papa? Oui, mais nous, on est... Allez, fais ton quota. On verra ça demain. Et le lendemain? Fais ton quota de briques. Lis les idéaux, tout ça. On verra ça demain. Tu vas être fouetté si tu fais pas ton quota de briques aujourd'hui. Ah oui, papa. Ah oui. Et c'est comme ça qu'une vie passe. Occupe-toi tellement des choses de la terre que toutes les réalités spirituelles dans lesquelles le Seigneur veut t'emmener vont passer au-dessus de ta vie. Et un jour, vous vous réveillerez à 80 ans, 90 ans, avec une vie somme toute relativement convenable, je vous le souhaite. Peut-être que les pires difficultés vous auront été épargnées, mais aura-t-elle eu du sens, cette vie ? Ou est-ce que, comme tous ceux qui sont dans ce monde, qui n'ont aucune vision, aucun sens des priorités, vous aurez vous aussi travaillé pour les choses d'ici-bas, ramassant de la poussière, ramassant de la paille, mettant le tout ensemble avec de l'eau, faisant des briques, et ne pensant qu'au quotidien, sans aucune vision d'avenir, à refaire votre quota, parce que tous les gens font le même quota. Et si je ne fais pas mon quota, qu'est-ce qu'on va dire? Comment je vais m'acheter ma prochaine voiture, ou je ne sais pas trop quoi? Sauf que Dieu a mis à part quelqu'un, c'est Moïse. Il est né parmi ceux qui foulaient la boue, mais il n'a pas foulé la boue. Oh, c'est pas l'histoire de dire que lui, il était mieux que les autres. Mais Dieu a préservé Moïse de ce phénomène de, comment dire ça, d'enfermement dans une vision sans aucun sens au quotidien qui consiste à livrer les choses d'ici-bas sans jamais se poser les questions sur les choses plus élevées. Et lui, Moïse, il est épargné de ce système-là. Alors, évidemment, et ça a pris du temps, 40 ans quand même. Au bout de 40 ans, il dit, bah, tiens, au fait, je pourrais peut-être aller voir comment ça se passe là-bas parmi mes frères. Et allant parmi les frères, quelque chose le saisit, lui qui n'est pas tenu par la fabrication de briques, passe au milieu de ses frères comme ça, il voit leurs conditions, il dit « Mais quelqu'un vit comme ça? Est-ce que c'est possible qu'on vive comme ça ?» Et l'Église a besoin de vivre si elle veut être de ces gens qui deviennent des instruments de Dieu pour changer le monde. L'Église a besoin de se retrouver dans la présence de Dieu et dans les réunions, mais elle a besoin de côtoyer le monde. Parce que c'est lorsqu'on côtoie la souffrance aussi que Dieu inspire dans nos cœurs certains sentiments de compassion qui nous font changer nos priorités, changer notre regard sur nous. Et Moïse passe, lui il a le temps de le faire, mais c'est Dieu qui lui a donné ce temps. Oh, peut-être quelqu'un ici trouve-t-il que sa vie manque de sens parce que vous ne trouvez pas d'emploi peut-être, ou parce que vous n'avez trouvé un emploi que à mi-temps. Je sais que la majorité vous êtes plus débordés qu'autre chose. Mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui a du temps, et ce quelqu'un doit peut-être reconnaître dans le temps dont il dispose une occasion que Dieu lui donne de s'élever après avoir travaillé ou ne pouvant pas travailler pour les choses d'ici-bas. Dieu lui dit, lève donc tes regards. T'as fini de faire des briques ou tu fais que des briques un jour sur deux chaque semaine? Eh bien, lève tes yeux et regarde tout le travail qu'il y a à faire. Regarde la misère de ce monde et lève-toi et fais partie de ceux qui vont changer ce monde par la grâce de Dieu. On peut voir les choses comme on veut. On peut les voir comme ça. Et quand on est témoin de la douleur, de la misère, quand ça vient percuter nos cœurs, eh bien, ce qui arrive de toute façon à nos concitoyens, il n'y a pas besoin d'être enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit pour avoir ces sentiments-là. Ils existent dans notre génération, partout. Mais il y a plusieurs réactions à ces sentiments qui peuvent monter dans un cœur. La première, c'est l'indifférence. Oh, c'est moche la misère, mais si certains ont la chance de pouvoir être heureux, bah, qu'au moins eux le soient. C'est beau, hein? L'indifférence qui amène à l'immobilisme. Pourquoi tu fais rien? Écoute, je vais pas moi, puisque j'ai la chance de pouvoir être heureux, d'être dans des pays riches, de liberté et tout, je vais quand même pas, on va pas faire 100% de triste. S'il peut y en avoir 20% d'heureux, bah autant qu'ils soient heureux les 20%. Indifférence ou incrédulité. Lorsque parfois on commence à tirer sur la ficelle pour dire on va changer quelque chose, allez, on va tirer, on va changer la situation, on s'aperçoit que c'est tellement ancré, que c'est tellement massif, il y a une telle inertie, il y a tellement de rouages, même des choses intentionnelles qui gardent l'état de fait d'injustice comme ça en place, qu'on tire un peu dessus, puis on dit, ça, j'y arriverai jamais. C'est comme si quelqu'un vous disait, allez, pousse derrière ma voiture, faut qu'elle démarre en côte. Vous n'allez même pas essayer, parce que dans votre cœur, c'est écrit que c'est impossible. Et lorsque parfois on regarde le monde, on dit, ah, changera jamais. L'incrédulité est au fond de notre cœur et l'incrédulité nous amène au retrait. Me retire, j'y crois pas. Ça me fait mal de voir la souffrance, mais je crois pas que ça puisse changer. Alors je mets la distance. Seigneur, bénis-les. Merci parce que nous, on a la liberté. Merci parce que nous, on a à manger. Merci, merci, bénis-les. Mais je garde la distance parce que ça me fait souffrir d'être auprès et je crois pas que ça puisse vraiment changer ou que je puisse changer quelque chose. La troisième possibilité, c'est l'identification. L'identification, la projection de quelqu'un qui voit la souffrance et qui va la porter lui-même tellement dans son cœur qu'il va couler avec ceux qui coulent. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? Mais elle dit pas de couler avec ceux qui coulent. Et il y a une façon déséquilibrée, inappropriée de prendre part à la souffrance du monde, c'est de le prendre tellement à cœur, mais sans force, sans ressources, qu'au lieu de tirer quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit, on commence à plonger avec. Ce n'est pas dans ces catégories-là qu'on trouvera les gens qui changent le monde. C'est pas l'indifférence, l'incrédulité ou l'identification maladive qui vont nous faire changer le monde. Heureusement, il en reste une et je voudrais voir avec vous au point suivant que les gens qui changent le monde sont des gens qui passent à l'action. Parce que, et qu'est-ce qui les amène à l'action? C'est le refus. Lorsqu'ils voient cette situation tragique de souffrance et de misère, ni indifférence, ni incrédulité, ni identification, mais un refus. Je ne sais pas encore quoi, comment, quand, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà la caractéristique de ceux que Dieu va utiliser pour changer le monde. On n'accepte pas que les choses restent en l'état. On refuse de s'y habituer. On prend des risques s'il faut, on fait des sacrifices s'il le faut, mais on s'implique en action pour que les choses changent. Ah là, on peut espérer quelque chose. Quelque chose de noble et d'admirable hein, dans cette façon de se comporter. C'est beau, c'est noble, c'est admirable, tout du moins humainement parlant. Parce que si on regarde l'histoire de Moïse, il est bien passé à l'action un certain jour, on va le voir. Mais on s'aperçoit que le résultat n'est pas admirable. Refus de la situation, prise de risque, coopération dans les sacrifices ne sont pas suffisants pour faire changer les choses. Moïse va passer à l'action et on va lire Exode chapitre 2 verset 12. À ce moment où Moïse est rendu témoin de la souffrance de ses frères, à ce moment où particulièrement il voit un Égyptien qui tabasse littéralement un de ses frères, il y a une violence, je ne sais pas si vous avez déjà été témoin directement d'une violence aussi intense que ça, moi je l'ai été dans un séjour sur Créteil, j'ai été témoin de ça, ça vous glace le sang et pensez pas que vous vous dites « Ouais, quand même, c'est pas normal, arrêtez, je vais vous séparer hein !» Moi j'ai vu ça, j'avais 19 ans, j'ai fait comme tout le monde, je me suis mis en cercle à 3 mètres distance de sécurité. Dans une passerelle là-bas à Créteil, il y avait tout un flot et il y a deux personnes certainement qui auraient pas dû se croiser mais qui se sont croisées. Et un grand gars, un colosse, un costaud a chopé l'autre puis a commencé à tenir sa tête, à lui envoyer des coups de genoux dans la tête, les bruits, les scènes, je me souviens de ça. Et il y avait pourtant beaucoup de monde et il y a un périmètre de sécurité qui s'est installé 3 mètres autour de la scène de lutte, de violence et on était tous là, faut arrêter. Tiens, première fois qu'on voit ça... Et Moïse est témoin de ça, de cette violence-là. Et comme il a été habitué au palais et tout ça, il a été instruit dans tous les arts de l'Égypte, dans l'intelligence, mais certainement aussi dans les choses qui concernent le combat, l'autodéfense, etc. Il attrape l'Égyptien qui violente l'Hébreu. Et il dit, ça suffit maintenant, je passe à l'action, je peux plus tolérer que ça ne change pas. Je vais amener le changement, et le changement, c'est maintenant. Et Moïse saisit l'Égyptien. Lui ôte la vie et l'enfouit sous le sable en disant à l'autre, tu dis à personne ça entre nous. Ça s'est commencé quelque chose, une ère nouvelle arrive, Moïse est arrivé. Il est descendu de sa tour d'ivoire et lui va maintenant apporter le changement. Il passe à l'action, mais l'instinct de Moïse va le pousser à l'action meurtrière. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La passion de Moïse l'a conduit au-delà de toutes les limites du raisonnable. Il n'est plus dans la spontanéité. Oh non, non, Moïse, c'est plus la spontanéité, ça, c'est de l'impulsivité. C'est pas pareil. Il n'est plus dans le courage, il est dans la témérité. T'es en train de prendre des risques inconsidérés, Moïse. Il n'est plus au summum de l'intelligence dans laquelle il a été instruit. Il est tombé dans la folie. Sa passion a pris possession de lui. Pourtant, l'intention était bonne. Lorsque vous lisez Actes 7, 25, qui vous est proposé ici, c'est le deuxième chapitre dans lequel on va lire encore dans la suite de ce moment. L'intention, le sentiment d'origine n'était pas mauvais. Moïse, qui ne voulait pas que les choses restent comme elles étaient, voulait être l'instrument, le moyen par lequel Dieu allait changer la situation. Noble ou pas noble? Non? Noble? Ben oui, vouloir être l'instrument de Dieu pour que les choses changent. L'intention, elle est noble. C'est recevable, c'est tout à fait acceptable. Il voulait être le moyen de Dieu. Acte 7, 25 dit, Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Ils pensaient certainement ceci, Seigneur, c'est mon jour, sois avec moi, je plonge, tu plonges. Quelle belle préparation spirituelle, hein? On tient un homme de Dieu là, hein? Mais voilà, troisième point, les gens qui changent le monde savent que l'action ne suffit pas. Ils le savent parce qu'à un moment, ils ont tenté l'action et ça n'a pas donné le fruit escompté. Les fruits de l'action de Moïse sont mauvais. Les Hébreux ne comprennent pas le message. Moïse perd son innocence, il devient un meurtrier. Il perd sa citoyenneté, sa légitimité, sa dignité. Il perd tout. Acte 7, 26 dit ceci le jour suivant. Le lendemain du meurtre, ça va pas loin. Hein. Vous savez, il y a des choses, quand le processus ou le cycle s'enclenche, on peut tomber très bas, très vite. Et Moïse, il passe de prince presque à meurtrier banni en 2 jours. Un jour, il tue un Égyptien. Le lendemain, il essaye de se placer en juge. Voyez, voilà ce qui se passe. Acte 7, 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors que deux Hébreux se battaient. Et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. On comprend que le temps déjà a commencé à passer. Le fruit de son action n'est pas du tout celui qu'il avait escompté. Non seulement rien n'a changé, mais Dieu dispose maintenant d'un moyen de moins de changer les choses. Moïse est disqualifié. Il ne peut plus opérer quelque changement que ce soit autour de lui. Il a fait la faute qu'il ne fallait pas commettre. Et après avoir essayé l'action de tout son cœur en disant « ce sentiment-là, j'y crois, les choses doivent changer. Certainement que Dieu veut que les choses changent aussi. Et le changement, c'est maintenant, le changement, c'est avec moi. On y va, allons, on passe à l'action. Les gens qui changent le monde savent passer à l'action. Ils passent à l'action, mais maintenant, il est dans le retrait. Il est dans l'abattement. Il est dans l'immobilisme. Il est dans l'échec, dans le manque d'assurance, avec un petit soupçon d'amertume et un voile de tristesse au fond des yeux. Voilà ce qu'une action ratée a fait de Moïse. Il était dans la catégorie de ceux qui refusaient la situation et voulaient passer à l'action. Eh bien, une mauvaise action l'a amené où? Dans les 3 premières catégories. Celle des gens avec lesquels le Seigneur ne peut rien faire. Il croyait dans l'action. Il refusait le statu quo. C'était les bonnes bases. Mais son action l'a amené à changer de catégorie maintenant. Il ne croit plus que ça puisse vraiment changer, en tout cas pas par lui. Il essaie de vivre son bonheur de son côté dans une relative indifférence en disant « Ok, mes frères sont là-bas dans l'esclavage, mais moi au moins, je me suis mouillé moi pour eux. Et soit ils sont dans la peine, mais j'ai déjà assez souffert pour eux. J'ai partagé leur douleur maintenant, si je peux avoir un peu de bonheur, je vais me recentrer sur moi, une petite vie paisible de berger. Je vais fonder ma petite famille, fonder mon petit royaume là, personne va m'embêter. Ça va être comme ça, je vais me recentrer sur moi. » Il change de catégorie parce que son action n'a pas porté le fruit escompté. Il sait, il a compris, ça a été douloureux, que les gens qui changent le monde sont amenés à découvrir lorsqu'ils passent à l'action de manière intempestive, que l'action ne suffit pas. À ce jour, si vous voyez sa face, son visage, vous le trouveriez marqué par la déception, la résignation, l'hésitation, la méfiance. Dès qu'on lui propose quelque chose, j'y crois plus, je suis contre ça, moi, laisse-moi ma vie dans la distance. Il n'embraye plus, il n'enclenche plus, même quand Dieu lui parlerait, il n'enclenche plus, parce que son projet d'action autonome l'a amené dans le dégoût, dans la déception. Son visage est marqué par tout ça. Maintenant, ceux qui ont vécu ça et qui veulent quand même changer le monde, ceux qui finalement ont compris que le changement ne viendra pas d'eux et que la spontanéité, la simplicité ne suffisent pas, vont aller plus loin. Ils vont rentrer dans une autre catégorie et comprendre que les gens qui changent le monde, bien sûr, ils refusent le statu quo, ils sont prêts à passer à l'action. Ils comprennent que l'action ne suffit pas. Et ceux qui changent le monde aujourd'hui ont pour point commun, ceux qui changent le monde en bien, ont pour point commun d'avoir été transformé par la communion. Et ça, Moïse ne l'avait pas encore vécu, il fallait qu'il le vive. Vous savez que la grande majorité des ONG qui travaillent dans le monde entier aujourd'hui sont de source, d'origine, de nature, pour ne pas dire de nature chrétienne. Vous savez pour qui on fait des démarches, par exemple au travers du Téléthon ou de bien d'autres choses? Qui sont les cibles? Moi j'ai travaillé avec des gens qui font de l'audit dans des structures associatives ou autres. Savez-vous, lorsqu'on fait Téléthon, ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre chose comme ça, il y a plusieurs actions de levée de fonds. Qui sont les cibles des communicants? Les chrétiens. Parce que dans tous les cercles, que ce soit Téléthon ou autre chose, ce sont les chrétiens qui, bien que n'étant pas majoritaires en France, ce sont les chrétiens qui ont cette fibre-là de compassion, de mobilisation, qui sont poussés, qui sont préparés à aller vers l'action. Ce sont les chrétiens qui vont donner, qui vont sacrifier pour que la vie de l'autre change. Ça, c'est un sentiment chrétien. Majoritairement, ce sont les chrétiens qui donnent. Les gens, les sociétés le savent très bien et elles adaptent, vous ferez attention, aux discours, aux mises en situation que vous avez à la radio ou à la télé lorsqu'il y a des mécanismes de levée de fonds qui sont mis en œuvre. Ça parle à des chrétiens, à des gens qui ont des conceptions et des sentiments chrétiens. Parce que ce sont eux qui passent à l'action. Et le monde entier aujourd'hui, dans tout ce qui est positif, le monde est quand même influencé par les sentiments chrétiens, les sentiments de Christ dans les chrétiens. Ceux qui changent le monde aujourd'hui sont des gens qui ont été transformés par la communion. Les autres, s'il fallait faire une campagne de marketing pour lever des fonds auprès de ceux qui n'ont aucun sentiment chrétien, ce ne serait pas du tout les mêmes campagnes. Les gens savent, même dans les milieux élevés, que ceux qui sont sensibles à la condition de leur prochain sont des gens avec une pensée, un arrière-plan, une expérience chrétienne. Acte 7, verset 30. 40 ans plus tard, 40 ans après sa fuite d'Égypte, Moïse a fondé sa famille, etc. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. C'est là le rendez-vous de Dieu avec Moïse. Le Moïse cassé, le Moïse brisé, le Moïse désespéré, qui ne croit pas, qui a changé de catégorie, qui était dans la catégorie de ceux qui refusent, mais qui maintenant est dans la catégorie de ceux qui sont indifférents ou incrédules. Dieu va rencontrer ce Moïse-là et va essayer de ranimer une nouvelle flamme, une flamme qui se pose mais qui ne consume pas. Le feu émotionnel, affectif que Moïse avait senti brûler dans son cœur l'avait brûlé. L'avait réduit en cendres en 2 jours. Mais Dieu allait faire brûler dans son cœur un nouveau feu. Un feu qui ne consume pas, qui ne détruit pas, qui brûle pour la vie et qui ne fait que du bien, qui sanctifie même la zone qui est autour de lui, qui a une influence bénie dans sa périphérie. C'est cette rencontre-là qui va tout changer. Avant cette rencontre-là, Moïse avait des perceptions de Dieu. Parce qu'on lui avait parlé de Dieu quand même. Je suis sûr que la maman de Moïse, lorsqu'elle jouait ce rôle de nourrice, lui chantait des petites comptines chrétiennes. Ça lui parlait de Dieu. Ça plaçait déjà les premiers repères des fondements de la vie. Il avait ça. Il voulait que les choses changent. Il avait certainement aussi reçu la connaissance de la promesse de Dieu qui disait qu'un jour il allait libérer son peuple et l'amener vers un pays magnifique. Certainement qu'il avait tout ça. L'arrière-plan, il était là. Le contexte, il était là. Mais il n'avait pas de communion avec Dieu, il avait seulement des perceptions. « Oh, Seigneur, il me semblerait que tu pourrais faire quelque chose avec moi aujourd'hui. » Paf, il plonge. Mais Dieu l'a-t-il envoyé ? Non, mais il pense que peut-être le Seigneur serait d'accord avec ce genre d'initiative. Et il y a une sorte d'à peu près, d'approximation dans la façon dont Moïse vit même son service pour Dieu. On va voir, on va essayer. Allez, allons-y. Il n'est pas appuyé sur la communion avec Dieu. Et c'est ce qui va changer à partir de maintenant. Il va s'instaurer un dialogue direct, une communion réelle. Et c'est ça, c'est ce dont les cœurs désabusés ont besoin aujourd'hui aussi. Si vous êtes désabusé et amer à cause d'un échec, peut-être d'une grande implication suivie d'une grande déception. Si vous êtes en morceaux, comme Moïse était en morceaux, si votre visage maintenant est marqué par des traits de douleur, de crainte, de souffrance, de renfermement. J'aime bien Lincoln. Un jour, il doit recruter quelqu'un. Alors, il fait venir des gens et puis il en écoute un, il le fait sortir, il dit à son secrétaire de cabinet, « Pas celui-là, j'aime pas sa tête. » Alors, le secrétaire de cabinet dit, « Mais monsieur, ce pauvre homme n'y est rien pour son visage. » Et Lincoln va dire ceci, « Passé 40 ans, tout homme est responsable pour son visage. » Vous comprenez ce que ça veut dire ? Passé 40 ans, quand les rides commencent à s'installer, il y a des rides qui sont comme ça chez certains. Il y a des rides qui sont comme ça. Il y a des rides qui sont comme ça. Il y a des rides qui, ou des expressions qui manifestent de la paix, de l'assurance, de la sérénité. Il y a des choses écrites sur votre visage, mes frères et sœurs. Regardez bien votre voisin, il doit avoir écrit quelque chose sur son visage. Passé 40 ans, quand le visage prend les marques de toutes les expressions qu'on a exprimées, imprimées le plus couramment sur nos visages, nous sommes responsables de ce que nos visages expriment. Alors c'est le moment d'aller voir quelqu'un, dire « Tu trouves qu'il exprime quoi mon visage ?» Qu'est-ce qui est écrit sur votre visage ? Sur le visage de Moïse, c'était pas la joie. Hein. 40 ans de, si j'avais su, 40 ans de... Franchement, 40 ans de... Voilà. Moïse, t'es pas une victime, t'es responsable de ton visage. T'es responsable de ta tête. Regarde ta vie, regarde ton cœur, regarde ton visage. Regarde ce que tu exprimes, regarde ce que tu communiques. Tu as rêvé de communiquer la vie pendant des années. Regarde ce que tu es en train de communiquer autour de toi. Fiston, essaye pas de changer les choses. Tu vas y laisser des plumes. Fiston, fais jamais confiance aux gens. Fiston, même Dieu, c'est louche. T'étais appelé à autre chose que ça, non ? Mais c'est dans cet état-là que finit Moïse. Et il n'a pas besoin d'un coach. Hey « Eh Moïse, t'as de la chance. T'es en famille maintenant avec Jéthro. Jéthro, c'est un super coach. Il coach les gars qui sont un peu brisés, un petit mélange de religion avec un petit peu de philosophie, un petit peu d'estime de soi là-dedans. Allez hop, il va te requinquer. C'est pas de ça que Moïse a besoin. Moïse, le désert, il n'y a rien de tel pour revivre un moment de réconciliation avec soi. Vous voyez, 40 ans de désert, il est toujours pas réparé, le Moïse. Il n'y a pas de solution ici-bas. On ne change pas un cœur comme ça. Il faut du temps. Bah oui. Il faut du temps, autant. Ça veut dire que quand vous avez passé 40 ans, il vous faut encore 40 ans. Et quand vous en avez passé 80, il en faudrait encore 40, mais il n'y en a plus. Il ne faut pas du temps, autant. Il faut une rencontre avec Dieu. Il ne faut pas un coach, il ne faut pas un responsable. Oui, mais quand un tel et un tel et un tel auront reconnu que c'est eux qui sont la source de mon découragement, de ma souffrance, etc. Quand un tel et un tel, alors je guérirai. Ah oui ? Et si ça ne se passe jamais, tu vas continuer à répandre autour de toi un fiel amer, à emmener tes enfants sur la même ligne, à faire voir l'Église, à faire voir Dieu, à faire voir l'œuvre de Dieu comme quelque chose d'indigne, d'anormal, de moche, de bancal. C'est quand que tu vas guérir ? Encore 40 ans, mais les as-tu seulement ? On prie pour des gens en ce moment qui ont 40 ans, qui sont en fin de vie. Autour de l'Église, en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, auquel je pense. La vie ne nous est pas donnée avec une garantie. Si ça faiblit avant 80 ans, tu reviens, je te mets des pièces neuves et ça repart. La vie nous est donnée, mais il n'y a pas de perspective qui ne puisse nous faire dire, oui, je peux encore gâcher 10-15 ans. Allez, je me donne 10-15 ans, je gâche encore 10-15 ans, et après, je guéris, je me relève, et puis je rentre dans l'œuvre de Dieu. Oh, quelle sagesse! Quelle sagesse! Il y a une folie là-dedans, et ce matin, je crois que, au travers de l'histoire de Moïse, Dieu veut dévoiler la folie dans certains cœurs. Il y a des mensonges auxquels on croit tellement fermement qu'on est capable de les citer, de dire Alléluia après. Mais ça colle pas. Il faut qu'on prenne conscience que ça colle pas. On peut pas prononcer ces choses, envisager ces choses et penser qu'on est agréable à Dieu et que tout va rouler et qu'on est dans le plan de Dieu et qu'on va être des sources de changement dans ce monde qui en a tellement besoin. Moïse, il est marqué comme ça. Seulement, dans ce moment de communion où il se laisse attirer, il y a une flamme qui brûle, c'est pas comme les autres. Il va découvrir trois choses dans la présence de Dieu et on termine avec ça. Il va découvrir les sentiments de Dieu. Exode chapitre 3 verset 3. On est dans ce moment où la rencontre se fait, le dialogue s'instaure. C'est la première fois entre Moïse et Dieu de cette manière-là. Moïse a toujours été croyant. Je suis persuadé que d'une certaine manière, il côtoyait un cercle de pratiquants. Je ne sais pas comment, mais certainement qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais il n'y avait pas la communion. Et là, Moïse voit le buisson qui brûle et il dit, Exode 3, verset 3, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père. » Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. J'ai jamais connu ça, j'ai jamais vécu ça. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Et vous savez très bien que derrière le terme je connais, connaître, il y a toujours cette idée de communion, de vivre avec, de faire un avec. Je connais, je participe, je vis et je subis. Ses douleurs et ses souffrances. J'ai vu, j'ai entendu, Moïse, ça me tord le ventre. Et en termes humains, Moïse, je dors plus de voir la souffrance en bas. J'entends les cris, je vois la souffrance, je vois l'injustice, je peux plus supporter ça. Et Moïse est interpellé, ça le ramène plus de 40 ans en arrière, il dit, mais Dieu, c'est exactement ce que je pensais il y a 40 ans, c'est ce que je ressentais, ce que tu es en train de dire, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je vivais, j'avais ça dans mon cœur. Et quelque chose certainement commence à se rallumer dans le cœur de Moïse parce qu'il s'aperçoit que Dieu non plus n'est pas un Dieu insensible, que cette compassion qu'il avait ressentie, Dieu en est rempli jusqu'à ras-bord, que cet amour pour le peuple auquel il appartient, Moïse le possède, Dieu le possède aussi, il en est rempli. Et Moïse fait connaissance avec les sentiments qui animent le cœur de Dieu dans ce moment particulier. Il est sensible. J'avais cru, Dieu ne m'ayant pas suivi dans mon action, j'avais cru que Dieu était insensible. Et je comprends aujourd'hui, devant le buisson ardent, en entendant Dieu me communiquer ses sentiments, qu'il a un cœur qui vibre pour une génération, un monde qui souffre. Ça le ramène avant, ça le ramène à l'époque où il était bien, où il avait des projets, de l'ambition, de l'énergie, du zèle pour servir Dieu. Il y a quelque chose qui se reconstruit là dans la communion avec Dieu. Il rajeunit comme l'aigle. Dieu est touché par ce qui nous touche. Il est loin d'être insensible. Et c'est ce que Moïse comprend. Ceux qui changent le monde ont été transformés par la communion avec Dieu. Ils ont découvert les sentiments de Dieu. Et maintenant, ils ont découvert les plans d'action de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu seulement d'intention. Il est un Dieu d'action. Il a formé pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous des plans, des projets. Son plan d'action tient en 5 lettres. Moïse, voilà le plan d'action de Dieu pour cette génération. Maintenant, Exode 3, verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Seigneur, tu as certainement un plan ? Oui. J'écoute, Seigneur, on va soutenir. S'il faut donner, on va donner. S'il faut prier, on va prier. Non, c'est pas ça. Ah, dis-nous, c'est quoi ton plan, Seigneur ? C'est toi. Mon plan. Moi, mais j'ai un métier, moi. J'ai des brebis, des boucs, j'ai une famille, je fais des briques comme les autres maintenant, je suis occupé avec les choses de cette terre. Je peux pas, moi. Mon projet, mon plan d'action, c'est toi. L'Église est le corps de Christ. Elle est, étant remplie de l'Esprit, elle est la solution de Dieu pour une ville, pour un pays, pour le monde entier. C'est l'Église. Le plan de Dieu, c'est l'Église. Et quelqu'un a dit, les hommes cherchent des méthodes, ou de meilleures méthodes. Mais Dieu cherche de meilleurs hommes, avec les femmes, les enfants, tout le monde avec. Hein. Dieu cherche de meilleurs hommes, parce que les hommes sont la méthode de Dieu. Ça, c'est la vérité. Oh Seigneur, envoie quelqu'un ce matin. Non. Seigneur, tu me dis quoi à moi ce matin? Moïse ne croit pas franchement que ça va marcher. Parce qu'il a déjà essayé, parce que des gens aussi bons ou meilleurs que lui, il y en a d'autres et ils n'ont rien fait de mieux. Et Moïse est en train d'expliquer à Dieu, « Vas-y Seigneur, mais vaut mieux que tu prennes quelqu'un d'autre que moi. » Oh Seigneur, tu verrais tout ce que tu peux faire dans l'église, ici à Caen. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Ouais! Toute l'église du Vaugueux croit de tout son cœur que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec votre voisin? Ouais! Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec l'Assemblée Baptiste? Ouais! L'église du Vaugueux est pleine de foi. Alléluia! Mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec vous? Ah Seigneur, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ce morceau du message. Moïse ne croit pas que ça va marcher. Il dit au Seigneur, ils me croiront pas. J'ai déjà essayé, ils me croiront pas. Pourtant, j'ai donné une impulsion assez forte. Hein, mais ils me croiront pas. Ils reconnaissent jamais les choses à leur juste valeur avec toute ce relent de ces blessures passées qui s'expriment au travers de cette pensée-là. Et Dieu va devoir quand même lui faire comprendre qu'il doit passer à l'action. Il est blasé de l'action qui découle de l'impulsion, mais il doit découvrir maintenant l'action qui découle de la communion. C'est pas pareil. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout pareil. Dans les mécanismes spirituels qui sont derrière les apparences, ce n'est pas du tout pareil. C'est pas comparable. Moïse découvre les plans de Dieu, les plans d'action de Dieu. Et puis, troisièmement, et donc pour terminer, là, dans la communion avec Dieu, Moïse découvre la puissance de Dieu. Ça, il l'avait jamais découverte. Il ne l'avait jamais connue. Ses enseignants égyptiens ne lui avaient jamais expliqué la puissance de Dieu. Jamais. L'astrologie, les mathématiques, les arts peut-être martiaux de l'époque, etc. Oui, ça c'était bon. Mais la puissance de Dieu, il ne la connaissait pas et il n'avait jamais su la transmettre à Moïse. Moïse découvre la puissance de Dieu. Il découvre que c'est spirituellement qu'on peut remporter des victoires et faire changer les choses. Des victoires sur soi-même. Vous connaissez ce passage dans lequel Moïse est en train de vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Puis dit à Dieu, ils me croiront jamais. Et Dieu dit à Moïse, on va commencer le travail. Tu t'appuies sur quoi là? Et Moïse dit, c'est mon bâton ça. C'est mon bâton, je m'appuie dessus tout le temps. Le bâton, le bois étant dans la Bible le symbole de l'humain, du cœur humain. Tu le vois ton bâton? Tu t'appuies dessus? Oui Seigneur, je me suis toujours appuyé dessus, au sens propre comme au sens figuré. Le jour où il a voulu que les choses changent, il s'est appuyé sur son cœur humain. Il s'est pris en main, il a dit, allez, oh, celui-là, on va lui couper la tête et ça va donner une impulsion. C'est appuyé sur son cœur et Dieu lui dit, t'as besoin de comprendre quelque chose spirituellement. Parce que visuellement, il s'était toujours appuyé sur son bâton et son bâton avait toujours tenu. Pose-le ton bâton, je vais te manifester la vraie nature de ton cœur. Moïse jette le bâton comme ça, il dit, voyons qu'est-ce que c'est. Et le bâton commence à s'animer et à sinuer comme ça sur le sol. C'est un serpent, mon bâton est un serpent. Je me suis appuyé sur un serpent pendant toutes ces années-là. Mon bâton sur lequel je m'appuie est tortueux par-dessus tout. Je ne peux plus m'appuyer dessus, je peux plus lui faire confiance. Voilà sa nature profonde. Merci Seigneur, j'ai compris. Prends-le maintenant, par la queue, méfie-toi. Ça a beau être ton bâton transformé en serpent, c'est un vrai serpent. Il a des vrais crocs, un vrai venin. Il peut vraiment te faire du mal, ton cœur. Attrape-le, mais avec méfiance, par la queue. Tu vas le ressaisir. Et le serpent redevient bâton. Et Dieu dit maintenant, si t'as pas compris, mets ta main contre ta poitrine, là, sous tes vêtements. Et Moïse plonge sa main. Et puis il la retire. La lèpre, maladie extrêmement contagieuse et mortelle. La lèpre, symbole du péché qui détruit et qui est condamné et qui nous condamne à la mort. La lèpre a saisi toute sa main en un instant. Ton cœur est contagieux, Moïse. Si ton cœur ne change pas, et si tu es au contact de toi-même et de ceux qui t'entourent, tu vas leur communiquer la lèpre. Parce que il y a ça dans ton cœur. Et Moïse prend conscience de lui-même, de ce qu'il est. Il comprend donc qu'avec tout ça en lui, il n'est pas capable d'amener le changement. Il est dans la communion avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est lui-même. Il dit, Seigneur, je peux rien faire avec ça. Mais il découvre aussi au travers de ça la puissance de Dieu. Et il va découvrir la puissance de Dieu pour un combat spirituel qu'il va remporter contre lui-même au travers de ses révélations, mais aussi pour des victoires sur l'oppresseur. Car derrière le pharaon qu'il connaissait, « Mais je connais le palais, Seigneur !» Il y a quelque chose que tu n'as pas vu dans le palais. Et Moïse, à un moment, vient devant Pharaon et il prend là le bâton sur lequel il s'est appuyé. Il sait très bien ce qu'il est, il ne le manie plus de la même manière, il ne s'appuie plus autant dessus. Il ne se fait plus confiance à lui-même, parce qu'il sait la nature profonde de son cœur. Il vient devant Pharaon, « Voici le signe par lequel tu connaîtras que Dieu te dit « Laisse aller mon peuple. » Bah ! Il jette son bâton par terre. Par la puissance de Dieu, le bâton devient un serpent. Et voilà que la manifestation de la puissance de Dieu va amener une manifestation de la puissance ténébreuse qui ne s'était peut-être jamais manifestée jusque-là de manière ouverte aux yeux de Moïse. Il jette son bâton, il devient un serpent. Et là, le Pharaon frappe dans les mains « Qu'on amène mes magiciens !» Les magiciens viennent et Moïse pensait que c'était juste des gars, des charlatans un peu, voyez. Et là, les magiciens viennent chacun avec leur bâton. Ils incantent, ils invoquent les dominations ténébreuses. Ils jettent leur bâton. Leurs bâtons deviennent aussi des serpents. Et Moïse prend conscience qu'il a essayé de gérer jusque-là humainement, à la force de ses poings, un combat qui était spirituel. Ils sont nombreux, ils sont des dizaines peut-être, les magiciens de Pharaon, et chacun met son bâton. Il est dans un combat spirituel. Mais parce qu'il a eu la communion avec Dieu, il va se passer ceci. Son bâton, devenu serpent, va engloutir tous les autres serpents. Parce que dans le bâton, dans l'humain qu'est Moïse, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais elle ne s'est jamais manifestée avant qu'il y ait cette révolution dans la communion. Mes frères et sœurs, il y a des plans de Dieu qui ont été formés pour nous de toute éternité. Il y a des choses que nous avons faites, que vous avez faites. Moi, je les ai faites ailleurs parce que j'étais ailleurs. Vous les avez faites ici ou ailleurs aussi parce que vous étiez ici ou ailleurs. Tout n'a pas porté le fruit escompté. Mais n'avons-nous pas, à bien des reprises, oublié de compter, de tout faire sortir, de tout faire naître de la communion avec Dieu. Je ne parle pas d'être juste à une réunion. Je parle de vivre une communion authentique et profonde avec le Seigneur, de la protéger de toute la pression que le Pharaon veut mettre sur nous. Fais des briques, fais des briques, fais des briques. Tu penseras à Dieu après. Tu penseras à ce que Dieu veut faire avec toi plus tard. Fais des briques, fais des briques, fais des briques. Et je me relève de ça et je comprends que j'ai besoin de vivre un moment de communion avec Dieu. Pour redécouvrir Dieu comme une personne, avec des sentiments, avec des plans d'action et une puissance spirituelle pour que les choses changent. On termine comme ça ce matin. Et j'aimerais vraiment vous inviter à vous lever à votre place, vous tous l'assemblée.